Bonjour, ici Autre Radio, Autre Culture, également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Gisèle Clark, rédactrice en chef de Réalisation. Bonjour Gisèle.
Bonjour et merci de m'accueillir sur cette radio.
Je me suis beaucoup intéressée par votre parcours et j'avoue avoir été très surprise. D'abord parce que le parcours est très éclectique et je me pose la question, est-ce que j'ai en face de moi une guitariste, une journaliste ou un ingénieur du son ?
Par respect pour la guitare, je dirais pas une guitariste. Je pense que je suis un ingénieur du son qui écrit. Je crois que ce serait plus ça, parce que je n'ai pas de l'esprit journalistique non plus. J'ai plus l'esprit d'un technicien ou d'une technicienne qui écrit son expérience.
Qu'est-ce qui vous a amené au son ?
Alors, ce qui m'a amené au son, c'est une belle histoire, parce que j'ai toujours été dans le milieu musical, et je travaillais pour une édition musicale, et je m'occupais de la promotion d'un jeune artiste qui s'appelait Michel Polnareff. C'était un monsieur très turbulent, et en fait, moi, comme je suis d'origine suisse, et donc sérieuse, on m'avait dépêché d'accompagner Michel Polnareff à Londres pour qu'il fasse pas trop de bêtises pendant ses enregistrements, tenir un petit peu la bourse. Et quand je suis allée au studio Lansdowne à Londres et que j'ai vu le grand magicien derrière la console, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc c'est par là que ça a commencé. Et quand je suis revenue donc des séances avec Michel, j'ai fait des pieds et des mains dans la maison d'édition pour m'occuper du tout petit studio de maquette qu'on avait pour enregistrer les artistes qui allaient présenter donc leur futur matériel aux radios.
Ah, quelque chose qui me titille là, Michel Polnareff enregistrant en Angleterre,
oui.
Parce que le son était meilleur et qu'on préférait cette qualité de son anglo-saxon.
Ah, c'était la mode complètement du son anglais. On était en 68-69. Et on était. Gainsbourg avait sorti des choses en allant à Londres. Enfin, c'était. Ce son british était très, très demandé.
Et ensuite, comment vous êtes mis donc des maquettes, du studio de maquettes
Alors, j'ai fait effectivement le studio. Je me suis occupée du studio de maquettes de l'édition pour laquelle je travaillais. Et puis, après, j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire vraiment de la prise de son en studio. Alors j'ai plaqué l'édition musicale et puis je suis allée, j'ai fait la liste de tous les studios français, parisiens en tout cas, pour chercher du travail. Et là c'était le bide total parce que des femmes ingé son, il n'y en avait pas. Il y avait quelques monteuses en musique classique, peut-être à Radio France, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, qui s'appelait pas Radio France à l'époque. Mais en studio, c'était niette partout. Et je suis arrivée à la lettre V, donc le dernier de ma liste, c'était les studios Vogue. Et là, il y a eu quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a engagée sans me payer, en me disant, après tout, ça va peut-être faire marrer tout le monde, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis rentrée comme assistante au studio Vogue, à Paris, rue d'Hauteville. Un studio qui n'existe plus maintenant.
Alors ça, c'est amusant, parce qu'il y a une réflexion d'un ingénieur du son, je crois, dans le dernier réalisation, qui expliquait qu'il aimerait bien qu'il y ait plus de filles qui soient ingénieurs du son, parce qu'elles avaient, la perfection au niveau du détail.
Peut-être, je ne sais pas. Alors là, je ne suis pas qualifiée pour dire ça parce que je réagis individuellement, donc je ne peux pas savoir si mes qualités ou mes défauts sont spécifiquement féminins ou pas. J'ai toujours aimé la musique, j'ai fait partie d'une famille de musiciens, donc j'ai toujours baigné là-dedans, dans la chanson. Donc pour moi, la prise de son, c'était quelque chose qui est devenu très naturellement. Donc, il a fallu apprendre la technique. Ça, c'est une autre affaire. Mais la prise de son, c'est très intuitif, en fait. Hein. On a des bonnes oreilles et puis ça sonne bien ou ça sonne pas bien. Et si ça sonne pas bien, on cherche pourquoi et on finit par trouver.
Alors, en vous écoutant, finalement, le parcours à apprendre de manière empirique le son, finalement, c'est en travaillant dans des studios.
Tout à fait, voilà. En tant que d'abord assistante, où on prépare les séances, ça c'est très formateur aussi. C'était à une époque où on faisait quand même encore pas mal de grandes formations orchestral. Le moindre disque de variété, il y avait une section rythmique avec des musiciens très pros qui venaient le matin. Ensuite, on faisait les re-recordings de cordes ou de cuivres. Ensuite, le chanteur ou les chanteurs posaient leur voix. Puis après, ça partait au mixage. Et ça, c'était un problème que j'ai eu chez Vogue, c'est qu'il y avait un studio pour enregistrer qui était à Paris et il y avait un studio pour mixer qui était à Villetaneuse. Et les enregistreurs ne mixaient pas. Donc je me suis retrouvée le jour où j'ai cherché du travail ailleurs pour évoluer, avec très peu d'expérience de mixage. Je savais bien enregistrer, mais je ne savais pas mixer. Mais j'ai donc fait effectivement ce parcours d'abord d'assistante. Et puis, un jour, il y a une chance qui arrive parce qu'il y a un ingé son qui... Là, c'était le cas d'un garçon avec qui je devais travailler en assistanat, qui avait un petit peu trop fêté quelque chose la veille et qui m'a appelé le matin de la séance en me disant « Écoute, t'assures la séance toute seule parce que je peux pas venir, j'ai une chape de plomb sur la tête. » Donc j'étais très 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 apeurée et c'était encore une grande formation et les musiciens ont tous été extraordinaires à me dire, il y avait André Ceccarelli qui me faisait connaître,
le batteur
qui me voit placer mes micros puis qui me fait « petite et Régis, le micro, il ne le met pas comme ça hein. ». Et ils ont tous été comme ça d'une gentillesse. Et l'enregistrement s'est très bien passé. Et puis, à partir de cette date-là, on m'a mis sur le planning de pouvoir faire des séances en tant que preneur de son et non plus uniquement assistante.
Ça doit être...
Donc c'est un petit peu... C'est la chance, quoi.
Oui, ça va être un grand plaisir quand ça arrive.
Oui, enfin, c'était une grande angoisse quand ça s'est produit. C'était un grand soulagement quand le disque est revenu mixer avec les commentaires... qu'il avait été très bien enregistré, donc
ouf. Et comment s'est passé le passage de l'analogique au numérique?
Alors moi,
ça s'est fait de manière très simple ou il a fallu se remettre en question?
Alors moi, je n'ai travaillé dans la prise de son en tant que salarié que pendant la période analogique. Je n'ai pas connu cette transition, c'est-à-dire je n'ai pas travaillé dans un studio numérique. Elle s'est passée au début, il y avait énormément de on-dit, on avait peur. Déjà, je peux dire que quand on est passé des consoles manuelles aux consoles automatisées, il y avait vraiment des légendes, enfin des bruits, des rumeurs qui circulaient en disant oh, « ça va nous enlever notre travail, enfin, on va avoir des consoles où on peut contrôler tous les paramètres et les garder comme ça en mémoire, et qu'est-ce qu'on fait nous ?» et tout. En fait, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est complètement intégré dans des outils, dans le mode de travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le numérique aussi. Au début, c'était sortez vos gousses d'ail, il faut tout apprendre. Et puis, en fait, ça s'est passé d'une manière assez sereine. Sauf peut-être pour, j'espère pas dire de bêtises en disant ça, peut-être pour les gens du cinéma qui avaient des habitudes beaucoup plus vieux jeu, en fait, hein, de travail. Mais pour les gens de la technique, pour l'enregistrement de la musique de variété, ce côté découverte, on l'avait en permanence. On découvrait des synthés qui sont passés du monophonique à polyphonique. On a eu donc on avait ce côté d'exploration et je crois qu'on l'a toujours. Donc
Philippe m'avait passé quand même pas mal de magazines et de vieux magazines et je m'étais amusée à regarder les critiques des Studer à 820,
oui,
du dernier Sony enregistreur Sony à bande mais qui se voulait également de nouveau attaché au numérique et ça m'a amusée parce qu'il y avait une réflexion dans l'article sur l'appareil de Sony qui disait pour les studios dans les générations futures, en pensant dans ces générations futures que ça allait être dans 20 ans ou 30 ans après. Oui. Et on s'est aperçu que finalement le numérique a pris une place très rapide au niveau de l'enregistrement.
Mm-hmm. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que c'est même plus les générations futures, puisque maintenant les magnétos, c'est quand même quelque chose qui se... Quoique, on pourrait en parler aussi... Il y a des artistes qui aiment bien mélanger le meilleur des deux mondes et qui aiment bien enregistrer des bases rythmiques sur des bandes de pouces analogiques. Je pense notamment à un monsieur que je connais bien qui s'appelle Mark Knopfler et qui est le fondateur de Dire Straits et maintenant qui fait une très très belle carrière solo et qui s'est payé un magnifique studio parce qu'il en rêvait, il avait envie de faire ça, il avait envie de savoir cet outil de travail dans lequel il a deux machines, je crois que c'est des 16 pistes, 2 pouces, et puis il a toute une batterie de workstations, hein, du DigiDesign, du Pro Tools, du Nuendo, enfin, donc il a le meilleur des deux mondes, et il est très heureux de travailler avec ces deux médias, en fait. Donc,
Oui, moi j'en connais un ici, Philippe Labroux, qui également prend un plaisir inouï à travailler sur ces deux systèmes finalement. Mmh. Et c'est vrai qu'après on arrive à une quintessence d'enregistrement qui est assez,
tout à fait, oui,
assez extraordinaire.
Oui, oui. Tout à fait.
Et alors, comment on en arrive à la publication?
Alors, il y a eu le passage par la case famille et enfants. Et donc après Vogue, j'ai travaillé avec un studio privé qui appartenait à l'ancien batteur des Chats Sauvages, donc Willie Lewis. Donc c'est un petit studio assez familial, rue du Faubourg Saint-Martin. Et puis à ce moment-là, donc j'ai lié ma destinée à Monsieur Clark et on a eu donc 2 enfants. Et ça va pas très bien, la compatibilité enfant et studio et musique. Oui. Alors j'ai un petit peu lâché à faire un peu de freelancing jusqu'au moment où il a fallu vraiment décrocher parce que les séances d'enregistrement nocturnes, ça allait pas bien non plus. Alors il y a eu une... En fait, je suis passée au commercial, j'ai vendu du matériel. Et en vendant du matériel, j'allais donc sur des expositions internationales. Et là, Zéro Vue Magazine m'a dit, Pierre, puisque tu vas à l'AES, est-ce que tu pourrais nous faire un petit compte-rendu? Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
Je vais revenir juste un petit peu en arrière, parce que vous en avez parlé. Si je vous dis Feel the Beat avec les Canaries, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr.
Je vais peut-être vous faire rougir.
Alors, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas si c'est les Canaries, parce que j'avais fait un enregistrement. Je ne sais pas si c'est ça. Hein, j'avais fait un enregistrement de chansons paillardes.
C'est ça.
En disco, ça s'appelait le discu.
Oui.
Et donc, on s'était donné tous des pseudos. C'était avec Arlette Tabar, une grande programmatrice à Europe 1, qui était directrice artistique de ce projet-là. Et on a vraiment rigolé. C'était au moment de la fièvre du samedi soir. Et donc, on a adapté le répertoire de la chanson cochonne, quoi, paillarde, en disco, avec les arrangements très Bee Gees, avec les toup 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 et tout ça. Et donc il y avait effectivement Feel the Beat, Hit the Beat. Moi je m'appelais Nick et Kate comme pseudo donc on avait Michel Air, on avait James Bond, c'était tous des pseudos.
On a enregistré une interview de Léo Léonard était dans le groupe.
D'accord.
Et il est passé tout à l'heure, il nous a dit « Faites-lui penser aux Canaries
!» Et ce qui est amusant avec ce disque d'ailleurs, dont je me suis occupée de la promotion alors que je venais de donner naissance à ma fille Émilie, donc j'étais à la clinique, et donc je faisais des enveloppes pour vendre ce petit enregistrement au travers d'un listing de noces et banquets qu'on avait acheté à la poste. Donc on avait envoyé un millier de lettres et on a eu un taux de réponse extraordinaire parce que comme on avait bien ciblé, les gens nous renvoyaient un chèque et commandaient le disque comme ça. Et donc je faisais mes enveloppes sur mon lit de clinique. Après
Quelle époque.
Il y a une petite anecdote aussi qui est rigolote avec ça, c'est que pour faire ce disque, on s'était quand même documenté, donc on avait été récupérer quelques chansons du répertoire Carabin que j'écoutais à la maison pour déterminer quelle séquence on allait faire. Et donc j'avais mon fiston qui était là, qui jouait. Et quand il est rentré à l'école maternelle, Un jour, la directrice m'a convoquée en me disant « Écoutez, Madame Clark, votre fils, il est adorable, mais quand même, il chante des drôles de chansons quand on lui demande de chanter, et il leur chantait la digue du cul. » Donc, j'ai expliqué pourquoi. C'était pas du tout le répertoire qu'on avait, qu'on lui apprenait, mais qu'on n'avait pas réfléchi qu'il emmagasinait tout ça.
Alors, le fait de passer à l'écriture d'articles sur du matériel, est-ce que c'est difficile après avoir été ingénieur du son, ou ça coule de source?
Je pense que je devais avoir un petit peu d'aptitude à écrire. Le premier article, il faut que je raconte ça parce que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup compté. C'est donc Zéro Vue Magazine qui m'avait demandé de faire un compte-rendu sur une convention. Alors bon, au début, c'était j'ai vu ça. Bon, c'était pas très, très élaboré au niveau écriture. Et puis, je venais de découvrir le groupe Dire Straits. J'avais dit à Philippe Folly-Dupart, tu vois, ce qui m'intéresserait, c'est d'écrire des articles sur la technique artistique, en fait, sur le rapport du technicien avec l'artiste. Et puis, je dis, il y a un groupe, je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils ont un son à tomber par terre. Qu'est-ce que tu penses si je faisais quelque chose avec eux? Il me dit, écoute, vas-y. Bon. Alors bon, après, c'était débrouille-toi cocotte, ce qui s'est passé. Et puis, c'est comme ça que je suis allée à Londres et que j'ai rencontré le groupe et que de là est née une amitié aussi. Enfin, donc j'ai beaucoup écrit et je continue encore à écrire sur Marc. Et ça a été c'était un catalyseur, quoi. J'ai eu vraiment... J'ai été très inspirée d'écrire, parce que c'était tellement intéressant ce qu'il avait à raconter à l'époque. Et en plus, on lui avait jamais demandé ça. On lui demandait ses influences musicales, on lui demandait des tas de choses, plus sur la guitare que sur le son. Et donc, ça l'avait interpellé de pouvoir en parler. Donc, c'était un échange qui a été tout à fait prolifique et qui a fait que l'écriture est venue assez vite, quoi. Donc, je leur dois ça aussi.
Est-ce que même maintenant, ce genre de personnage cherche toujours des nouvelles machines, un nouveau matériel, se remettre en question sans arrêt au niveau du matériel, je veux dire?
Alors, en ce qui le concerne, oui, c'est quelqu'un qui intègre beaucoup d'informations, qui s'intéresse à la technique sans en avoir le bagage, mais qui sait parfaitement exprimer ses besoins et qui, en plus, a ce côté collector de comme je disais tout à l'heure, des deux mondes. Donc, il adore les vieux micros, il adore les trucs à lampe et tout ça. Et il est très, très curieux de tout ça. Donc oui, il s'intéresse encore particulièrement à la technique. Et on lui a souvent reproché de mal chanter, d'avoir cette espèce de voix graillonneuse et puis de ne pas être vraiment devant le micro et tout. Et depuis qu'il a son studio, il travaille beaucoup ça. Donc on s'en rend compte d'ailleurs en écoutant les derniers enregistrements, c'est de mieux en mieux chanter. Il est en train de passer de guitar hero à un chanteur, à un songwriter, à quelqu'un qui sait écrire des chansons. Enfin, ça, il a toujours su, mais d'être plus le côté chanteur que, oui, le côté d'aligner les choruses, quoi. Oui. Donc je pense que le studio l'aide pour ça.
Et comment vous êtes arrivé, donc vous aviez travaillé dans
Zéro Vue Magazine,
oui. Comment êtes-vous arrivé à prendre en main une revue sur le son?
C'est-à-dire que réalisation, on m'a demandé de le faire. Je suis passée par plusieurs étapes dans la presse, à travailler pour différents journaux, dont la presse internationale, le Broussard News, qui, elle, m'a offert aussi la possibilité de travailler avec l'AES. On pourra peut-être en parler un peu. Mm-hmm. Ces journaux se font et se défont aussi. Il y a un problème économique. Il y a eu Zéro Vue Magazine s'est arrêté. Après, j'ai travaillé pour Showmag. Il y a eu Timecode s'est arrêté. Enfin, et j'ai eu l'occasion de créer le journal que je voulais. avec l'aide d'ailleurs de le soutien, je dirais, de deux importateurs importants qui sont SCV Audio et Audiopôle, qui m'ont dit vas-y, fais-le, on te soutient. Et donc ben voilà, ça m'a un petit peu poussée à le faire. Et puis bon, je suis quelqu'un qui est très autonome dans le travail. Je ne conçois mon travail qu'en indépendante. J'ai essayé de travailler pour être salarié, ça n'a jamais marché.
Et il faut déjà avoir le caractère à ça d'être salarié.
Et donc, c'est, même si c'est un peu, c'est pas facile, parce que faire vivre un journal uniquement sur le son de nos jours, on m'a toujours dit que ce serait le casse-pipe assuré. Et puis bon, ben non, ça, je crois qu'on tient bon. Quoi. Ça répond à une demande de la communauté audio qui se retrouve dans ce support. Donc c'est très motivant.
J'ai été étonnée, moi, c'est Le Monde qui a dans des... non pas dans des revues, mais dans des forums de son sur Internet. Où je vois nombre de jeunes qui sont étudiants, qui sont dans des écoles de son. Visiblement, ils ont l'air assez perdus. Et on a l'impression que, justement, ce genre de revue comme réalisation leur permet d'avoir des connaissances qui ne sont pas données dans leurs écoles. Et qu'est-ce que vous pensez de ces pléthores d'écoles de son qui existent en France? Parce qu'il y en a quand même pas mal.
Alors, je ne pourrais pas les juger parce que je les connais pas. Je suis un petit peu inquiète, comme vous dites, parce qu'on forme beaucoup de gens et il y a peu d'élus à l'arrivée. Mais il y a aussi des tas de métiers du son que les gens ne connaissent pas. Enfin, tout le monde ne va pas être l'ingé son royal à la console ou le front of house de la sonorisation. Il y a d'autres métiers, il y a des métiers plus dans l'industrie, il y a dans le design, dans la création d'équipements. Donc je pense que ce qui serait bien, c'est que ces écoles arrivent à canaliser les énergies aux bons endroits. Je ne pense pas qu'il y ait une place pour en avoir beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas combien il y a d'écoles en France, hein, je dois dire. Mais effectivement, il y a quand même quelques universités qui font des cours. Il y a des écoles comme la SAE, l'école Louis Lumière. Enfin, bon,
ça, c'est les plus prestigieux. Il y en a des plus petites.
Mais il y en a des petites, effectivement. Oui. Je pense que, effectivement, un journal comme le nôtre est certainement très, très utile pour les étudiants. D'ailleurs, j'avais eu au dernier Satis, j'avais été très surprise d'avoir la visite d'un des directeurs d'école qui était là en train de faire la visite avec ses élèves et qui s'est arrêté au stand de réalisation et qui a dit « c'est celui-là ». Voilà, si vous devez vous abonner à un journal, si vous devez en lire un, c'est celui-là. Et ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, la suite de ce journal, ça va être aussi de travailler en partenariat avec une librairie technique, qui est en fait la librairie de l'ACMÉ, pour offrir la possibilité aux lecteurs de pouvoir commander des ouvrages pour aller un petit peu plus loin par rapport aux articles qu'on écrit.
On voit même les éditions Erol n'ont pas non plus, la librairie Erol, qui est donc dans le cinquième, il n'y a pas non plus pléthore de livres sur le son actuel, enfin, sur le matériel.
Oui, tout à fait. Voilà. Puis bon, il y a pas tout, tout n'est pas traduit en français, donc qu'on fasse un petit peu d'élagage, d'explication des bouquins dans le journal et que donner envie de lire en VO, bon, ça c'est aussi c'est bien si on peut.
Oui, mais ça me semble, enfin moi ça me semble quand même normal qu'un ingénieur du son ou quelqu'un qui sort d'une école ou qui est dans une école de son puisse quand même lire au moins deux langues, qu'il lise en anglais. Je veux dire, c'est pareil quand on fait de la médecine ou ailleurs, on est obligé de lire l'anglais pour avoir accès à des articles excessivement spécialisés et qui apportent beaucoup de choses.
Tout à fait, oui. Ouais.
Alors, je voulais aussi revenir sur quelque chose. Là, vous parliez du salon du Satis. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une dégringolade au niveau des salons. Je lisais un article dans une de ces revues, justement, de celui qui avait organisé le salon du ciel dans les années 2004 et qui disait « Non, il n'y a aucun problème pour le salon du ciel. On est là pour de nombreuses années et ça marche très fort. Il y a de nombreux... il y a de nouveaux investisseurs, il y a de nombreux matériels et constructeurs qui arrivent. Et on s'aperçoit que pour les salons qui vont arriver en 2008, le ciel n'existe plus, et il va s'incorporer au Satis.
En fait, c'est pas qu'il n'existe plus. Voilà,
il s'incorpore au Satis.
Il fusionne. Trois salons vont fusionner ensemble, qui vont être le ciel, le Satis et le radio. Le radio qui était déjà rattaché au ciel historiquement, parce que radio égale également disjockey. Donc c'est en fait par les DJ que le radio s'était agrippé au ciel plutôt qu'au Satis. À mon avis, il est mieux avec le Satis, qui est quand même un salon plus broadcast. Donc le fait de réunir les trois ensemble est à mon avis une très bonne chose, parce que la France est un trop petit marché pour avoir trois salons. Il faut savoir qu'un salon, c'est pas uniquement de louer des mètres carrés, c'est également d'aménager des stands, c'est de faire de la déco, c'est de faire vivre pendant 3, 4, 5 jours dans une ville qui n'est pas toujours la leur, des gens qui vont donc dormir, manger, vivre. Donc dépenser de l'argent et donc il y a aussi tous les salons internationaux que les Français visitent. Qu'il n'y ait qu'un seul salon en France couvrant tout le domaine de l'audio et audiovisuel, ça me paraît une bonne chose, même si en tant que réalisation, je perds un salon, parce que je perds une opportunité d'exposer et de vendre des abonnements à deux fois dans l'année.
Deux fois dans l'année, voilà. Oui.
Mais je pense que l'intérêt collectif de nos professions, c'est qu'elles soient en bonne santé. Donc si on permet de faire des économies aux exposants, je crois que c'est une bonne chose. Ils pourront peut-être communiquer un peu mieux et puis faire autre chose. Donc faire de la formation, faire des choses pour développer leurs propres activités.
Est-ce que cela va permettre d'avoir une plus grande étiquette internationale ?
Je ne pense pas, parce qu'il y a des salons internationaux qui remplissent très bien leur rôle, qui sont l'IBC pour la partie broadcast, et donc qui est une espèce de super Satis, mais à l'échelon international, européen, qui est à Amsterdam. Et puis, le ciel, il y a son homologue anglais qui s'appelle le Plaza, qui est assez international aussi. Je dirais peut-être que la francophonie va peut-être se réunir sur la francophonie européenne et peut-être d'Afrique du Nord. Va se retrouver peut-être sur ce salon-là, mais pas côté international. Il y a des tas de salons dans des pays de l'Est, il y a des salons partout. Hein. Chaque pays a ses manifestations.
Moi, je voulais revenir un petit peu, on va quitter un peu le domaine du matériel, et je voulais revenir au niveau de la guitare.
Oui.
Que représente la guitare dans votre vie ?
Alors, j'ai toujours gratouillé depuis 13 ans, quoi. J'adorais cet instrument. Et puis, je l'avais complètement laissé tomber pendant une bonne trentaine d'années pour faire pousser la petite famille. Et puis, j'étais mariée avec un monsieur qui jouait très bien de la guitare, et ça me paniquait d'ailleurs. J'avais pas envie de jouer avec lui. J'étais impressionnée. Donc, j'ai mis de côté cette passion pour l'instrument. Et puis, quand je me suis retrouvée avec les enfants grandis, un changement de vie total, j'ai décidé de m'y remettre. Alors, je suis allée aux États-Unis, j'allais sur une AES, et puis j'ai acheté ma première guitare électrique, j'avais déjà une acoustique. Et puis maintenant, j'en suis à une dizaine de guitares dans des styles différents. Et puis, je passe toutes mes vacances à faire des stages, j'étudiais la guitare. Enfin, c'est un bien grand mot d'étudier, c'est plus de faire plaisir avec un groupe qui s'appelle Guitar Groove, qui a été monté par Chris Lancry, qui est un guitariste et harmoniciste de blues. Et puis, c'est devenu quelque chose de très envahissant dans ma vie. Déjà au niveau des instruments qui sont chez moi, et du temps que je passe dessus.
Alors voilà. On vous voit en photo dans une des revues d'ailleurs, avec Chris Lancry, qui teste les micros DPA lors du 30e anniversaire.
Voilà, c'était les 30 ans de la revue Actualité de la scénographie, qui sont des gens qui organisent le salon JTSE, qui est un salon extraordinaire, un salon qu'on aimerait en voir plus souvent, parce qu'ils sont ils sont petits, conviviaux, les gens ont le temps de discuter. Et donc, AS, donc le journal qui soutient ce salon, fêtait ses 30 ans et moi, je fêtais mes 60 ans. Donc, on a décidé de faire ensemble. Et là, DPA a dit, allez, moi, je vous prête les micros. Donc, ça, c'était l'occasion de faire la petite photo et puis qui est parue dans Réalisation.
Et de chanter. Mais vous avez déjà fait de la scène?
Oui, déjà en chant, oui. J'ai jamais lâché le chant. Mes deux parents étaient musiciens. Mon père est toujours de ce monde et il est toujours pratiquant. Il a commencé avec le jazz. C'est un fan de Petrucciani, de gens comme ça. Et puis en prenant de l'âge, il est en Suisse. Hein, il s'est orienté vers le folklore helvétique, à transposer des choses dans des œuvres du folklore dans différentes tonalités d'accordéon. Parce que, quand on a ces petits accordéons folkloriques, ils sont un par tonalité. Alors s'il a par exemple, je sais pas, une partition en do puis qu'il veut la jouer en si bémol, il faut qu'il la transpose. Et son exercice à plus de 86 ans, sa gymnastique intellectuelle, c'est de prendre son petit cahier, de transposer puis de jouer dans les autres tonalités. Et ma maman, qui n'est plus de ce monde, elle était choriste, elle travaillait dans l'orchestre d'Hubert Rostand, qui était un orchestre bien connu dans les années 50. Et donc mes parents se sont rencontrés sur scène. Donc il y a toujours eu, il y a toujours eu de la musique à la maison.
Oh, c'est sympathique ça.
je perds jamais une occasion de me faire remarquer et puis de chanter, d'amuser à la galerie. J'adore ça, j'aime bien. J'étais très triste de la perte d'Henri Salvador parce que j'étais, je pense, une des interprètes du blues du dentiste pendant de nombreuses années.
Et qu'est-ce que vous pensez du problème de la crise de la musique actuellement?
Je suis triste de voir que les maisons de disques n'ont pas joué la carte de l'intelligence. Mais d'un autre côté, je suis persuadée que la nature va trouver son chemin et qu'il va sortir quelque chose de bon de tout ça. C'est dommage que les majors ne donnent pas des chances à des artistes qui ne sont pas calibrés dans leur moule. Ça me gêne beaucoup de ce que je disais tout à l'heure hors micro, que je ne regarde pas les émissions de variété parce que je ne suis vraiment pas intéressée par le matériel qu'on y présente. Et je trouve que c'est dommage qu'on prenne pas de risques avec certains artistes. Mais quand j'ai vu, j'ai regardé l'autre jour aux infos un reportage sur un site internet qui vous permet de miser sur des artistes et de les jouer comme si c'est avec des jetons virtuels de bourse et de faire monter leur cote, et que ça risque peut-être de les faire connaître un peu mieux. Je me dis qu'il y a une petite lueur d'espoir pour que la musique survive malgré tout. Et je crois énormément aussi dans le disque comme étant, comme un DVD étant un souvenir de cinéma, un souvenir d'un bon film qu'on est allé voir en salle. Le disque devienne, ou le disque ou le support qui le remplacera, devienne le souvenir d'aller voir des gens en concert. Donc je milite énormément pour la promotion de la musique, du spectacle, du spectacle vivant, d'aller voir les gens jouer.
C'est quelque chose que je vois également sur Internet, où effectivement beaucoup de musiciens disent que la crise de la musique actuellement vont faire sauter des verrous, vont débloquer des choses, ce qui fait que effectivement le spectacle vivant va être primé, va passer en premier, et l'on va pouvoir vendre ses albums. D'ailleurs, ça commence déjà. Je veux dire, Radiohead et compagnie ont compris la chose. Ils ont mis leur disque en vente sur Internet. Ils vont le sortir, ou ils l'ont sorti déjà en album, mais très très fouillé, pour que ce soit des outils de collection, et qu'ils vont vendre également au niveau de leurs concerts. Maintenant, les musiciens s'aperçoivent que Internet va être la vitrine. Qui vont pouvoir se présenter justement sur les scènes.
Mmh, tout à fait, oui. Quand j'étais en reportage sur le festival de Bobital cet été, où il y avait donc, j'étais allée pour le dernier soir où il y avait un guitariste qui s'appelle Pat Homais, qui est quelqu'un de bien connu sur la scène bretonne. Et on lui avait donné carte blanche, il était là avec deux autres bretons, Alan Stivell et puis Gilles Servat. Et on a demandé à Pat ce qu'il pensait de la crise du disque, et il a dit « je m'en fous ». Dès l'instant, moi ce qui compte, c'est, c'est, euh, c'est la scène. Le jour où on m'empêche de faire de la scène, là, je suis mort. Mais le disque, bon, j'ai jamais... Bon, faut dire que c'est pas un gros, gros vendeur de disques, mais le disque, c'est un accessoire. C'était pas le but principal pour faire de la musique, c'est de s'exprimer sur une scène.
Mais on a eu la même réflexion. On a eu ici Angel Parra, donc chanteur chilien, chanteur et guitariste chilien, qui a fait plus de 90 disques et qui nous a dit, moi, dans un mois et demi, je les mets tous sur Internet gratuitement, en téléchargement, parce qu'il m'a dit, qu'est-ce qui prime chez moi ? C'est la scène, c'est le contact avec le public, c'est rien d'autre. Voilà. On arrive à un changement du statut de la musique, que je trouve d'ailleurs très très intéressant.
Puis il y a aussi la démarche de... moi, je télécharge pas sur Internet, sauf si j'ai besoin, par exemple, d'aller chercher un morceau parce que je vais le travailler à la guitare. Donc, je regarde si je peux le trouver pour le découvrir. Et à partir du moment où j'ai décidé que ce morceau me plaît, que l'artiste me plaît, je vais avoir envie d'avoir la pochette, la boîte, le produit. Même si le CD n'est pas aussi glamour que le pouvait l'être dans une pochette d'un vinyle où on pouvait vraiment s'exprimer artistiquement dessus. Moi, j'aime toujours, j'aime les CD, j'aime les jolis boîtiers, j'aime les bonus. Par exemple, les disques de Cabrel sont toujours très bien présentés. C'est toujours des petits livrets avec des peintures, avec Marc Knopfler aussi, il a fait quelque chose avec une peinture. Il y a un petit bouquin, il y a des souvenirs, il y a un petit DVD bonus avec le making of de l'enregistrement. Je sais pas, je peux pas remplacer ça. Le téléchargement, ça remplace pas ça. Il faut que j'aille l'acheter.
je me suis amusée aussi à regarder un petit peu les ventes de disques en janvier. Et j'ai eu la surprise de savoir que les ventes de disques remontaient. Pas énormément, de 0,4% pour le mois de janvier. Alors, savez-vous quelles sont les ventes qui ont été les plus prisées ? Enfin, quels sont les types de disques qui ont été les plus prisés ?
Je ne sais pas, je dirais comme ça à l'aveuglette, les coffrets parce que c'était Noël, ou est-ce que c'est...
Alors là,
j'ai pas la moindre idée.
La variété française, effectivement, descend dans les abîmes intersidérales. Mais c'est le jazz.
Ah oui.
Le jazz, plus 15%. Et la musique classique, plus 4,9% environ. Et la variété internationale.
Mais parce que je ne vois pas très bien télécharger une symphonie... de Beethoven en MP3. Enfin, je sais pas, ça dépasse mon entendement, ça. Donc, là aussi, je pense que le disque a de l'avenir. Mais peut-être que je me trompe complètement.
Hein. Alors, je me suis posé la question parce que c'était quelque chose que j'ai vu. On va revenir justement au niveau du matériel et des prises de son. Je me suis posé la question en train de me dire qu'on avait un problème dans la variété française, c'est qu'on faisait de plus en plus du mauvais son. On arrivait à des choses très compressées, on faisait du son pour la radio, à tel point qu'on mixe de telle manière qu'il faut que le son soit radio et non plus un son haute fidélité qui soit agréable à entendre. Et on arrive à des choses qui sont assez déplaisantes au niveau de la variété française. En revanche, pour ce qui concerne, je m'en rends compte au niveau du jazz ou de la musique classique, on cherche toujours un son qui soit comme si l'orchestre était dans
oui,
la pièce,
fait, oui.
Dans la pièce. Et je me suis posé la question justement si les audiophiles sont beaucoup plus intéressés par ce marché-là, étant donné que le son est meilleur, que de se tourner vers la musique française qui se perd de cette quintessence du
son. Tout à fait, probablement, oui. Parce que déjà les audiophiles, la plupart sont rentrés maintenant dans l'ère du multicanal et donc un minimum de 5.1 sur leur installation à la maison. Et ils vont chercher les enregistrements adéquats pour pouvoir valoriser leur chaîne quand ils vont l'écouter. Et ça, c'est pas en MP3 qu'on va le trouver, je crois pas. Oui, il y a une chance quand même, il y a une petite lueur d'espoir de ce côté-là aussi.
Bon, je vois de toute façon que Gisèle est une femme très optimiste. Chaque fois, je regarde dans ses articles, il y a toujours la note d'espoir, la note justement gay. Là, je voyais, il y avait un vieil article sur les problèmes avec les importateurs français de matériel qui avaient eu des problèmes avec la distribution du matériel des micro-shores.
Oui, oui.
Et vous aviez dit, mais de toute façon, rien n'est acquis et il faut toujours se remettre en question justement dans les ventes de matériel et les distributions. Et là, je reconnais que vous avez toujours une petite note d'optimisme en disant, mais oui, il faut travailler, il faut continuer, et les choses changent.
Oui, oui. Oui, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est on retrouve ses manches et puis on avance quoi. J'ai pas encore trouvé sur moi la marche arrière. Quoi. Je sais pas, ça existe pas.
Bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer maintenant à part la guitare?
Oh, la guitare, mais la musique vraiment. Ouais. Je crois que je pourrais pas vivre sans musique. J'ai vraiment besoin de chanter, de jouer, d'écouter des gens qui chantent et qui jouent, de discuter de ça avec des copains. Disons que toute mon activité tourne autour de, et même le relationnel amical et familial tourne autour de la musique. C'est toujours comme ça. Et je suis toujours aussi, j'aime toujours les découvertes. Dans le dernier numéro de réalisation, j'avais été invitée pour aller voir un artiste qui s'appelle Jamel Laroussi, que je connaissais pas du tout, mais vraiment pas. C'est une attachée de presse qui avait trouvé le journal et qui avait décidé de m'inviter. Donc j'étais un petit peu inquiète en me disant World Music, qu'est-ce que je vais découvrir là, est-ce que je vais être à l'aise, est-ce que je vais pouvoir faire un travail de ce que ces gens attendent d'aller visiter leur studio. Et c'était extraordinaire. C'est un artiste algérien qui a une telle qui a une telle joie de vivre. Il est jeune, il a pas tout à fait 40 ans. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire là? Et en fait, j'ai eu l'impression d'aller passer un week-end chez un ami. Et je suis revenue à la maison et puis j'ai écouté tout ce qu'il a fait. J'ai été chercher des documents et c'est merveilleux. Alors tant qu'il y aura encore cette ferveur de découvrir des choses, je ne vais pas m'ennuyer. Et je crois que le projet... Le jour où je vais un petit peu lever le pied sur tout ça, ben j'aimerais bien monter une petite salle de concert quelque part en Bretagne pour pouvoir recevoir des gens qui viendront jouer de la guitare ou apprendre le son ou faire toutes ces choses-là, puis d'une manière très conviviale, quoi. Voilà, sans prétention. Ça, c'est le projet de futur.
C'est hyper sympathique, ça.
Merci.
Merci beaucoup, Gisèle Clark, d'être venue. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Merci à vous et longue vie à la radio et à tous vos projets aussi.
Merci beaucoup. Alors ici, Autre Radio, Autre Culture, vous pourrez également écouter ces émissions sur Audio People. Allez, au revoir. Autre radio, autre culture.